Bonsoir. Des affrontements ont opposé il y a moins d'une semaine dans les territoires du Bafoué-Sendé, dans la province orientale, des éléments FRDC aux éléments Maïmaï du major Luc Yabili. Ces combats qui opposent depuis fin mai les FRDC aux miliciens Maïmaï alliés aux miliciens Hutu-Rwandais des FDLR ont fait près de 30 morts selon les FRDC, mais non confirmés encore par une source indépendante. Qu'est-ce qui justifie ces affrontements et pourquoi les Maïmaï du Bafoué-Sendé refuse d'adhérer au processus de passage? C'est le thème de la première partie du dialogue entre Congolais de ce soir. Et dans cette première partie, nous aurons comme invité unique le général Jean-Claude Kifoua, commandant de la 9e région militaire. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de la révision des prix de carburant opérée dernièrement à travers le pays. Et nous aurons trois invités dans cette seconde partie. Boni Mwawantadi, secrétaire général au ministère de l'économie, Fidel Babala, député national, membre du MLC et comme analyste économique, le professeur Moussenga Chimpangila, professeur en sciences économiques à l'Université de Kinshasa.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
En province orientale, les éléments des FRDC ont mené vers la fin du mois de mai dernier des opérations militaires contre les Maïmaï dans la région d'Opiengé, en territoire de Bafoué-Sendé. Le commandant de la 9e région militaire justifie cette intervention par le souci de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays en proie aux exactions des Maïmaï et convaincre ces derniers de rejoindre le processus de passage. Le pont avec notre confrère qui est au place, Jacques Moukonkolé.
Les localités concernées par ces opérations militaires sont celles des Longa, Balobe et Angamapasa, soit une superficie de 10 850 km². Selon un membre de la société civile de Bafoué-Sendé, cette contrée renferme des foyers miniers où sont exploitées certaines matières précieuses, notamment l'or, le coltan et les holflamites. Les Maïmaï du major Luc Yabili ont fait de cette forêt leur sanctuaire et commettent diverses exactions à l'endroit des creuseurs et autres populations civiles. D'autres groupes armés, notamment des militaires déserteurs, y font également la loi. Les populations civiles ont maintes fois dénoncé cette situation sans qu'une solution efficace soit trouvée à leur doléance. C'est ce qui explique peut-être les opérations militaires vers la fin du mois de mai dernier, après une sensibilisation sous le brassage. Mais ces opérations ont engendré mort d'hommes et poussé plusieurs familles à abandonner leur village pour se mettre à l'abri du danger à Bafoué-Sendé. Au regard de la situation humanitaire catastrophique qui pointait déjà à l'horizon, la société civile et les notables ont organisé une marche pacifique dans les rues de Bafoué-Sendé le 7 juin dernier pour réclamer la fin des hostilités. Cet appel a été entendu puisque le commandant de la 9e région militaire a décrété un cessez-le-feu le 11 juin dernier. Curieusement, selon le commandant de région, ce cessez-le-feu a été violé 6 jours après par les Maïmaï de Luc en coalition avec certains groupes armés. Actuellement, plus de 800 familles déplacées sont répertoriées à Bafoué-Sendé. Kisangani, Jacques Moukonkolé, Radio Okapi.
Accusé de décourager les Maïmaï d'aller au brassage, l'honorable Michel Boutoko, qui est député national, renvoie la balle aux autorités militaires. Il affirme avoir contacté le commandant de la 9e région militaire pour choisir l'option pacifique en lieu et place des affrontements. Surtout que ces hostilités se sont déroulées pendant que les élèves préparaient la fin de leur année scolaire. Pour ce député national, les leaders de ce territoire n'ont jamais soutenu les milices, mais ils sollicitent également l'application de recommandations de la conférence de Goma, notamment l'amnistie pour les Maïmaï de France. Dans cette partie du pays, on l'écoute au téléphone de notre confrère Willy Akonda.
Il n'est pas question ici de dire à l'opinion publique que l'honorable député est en train d'exciter les Maïmaï à ne pas déposer les armes, qui est en train de dire aux Maïmaï de ne pas venir au brassage. Moi, je pense que ça, c'est un faux, un argument de faux fuyant. Quand les Maïmaï sont sortis par la première vague avec Michigan à Kisangani, tout s'était sorti, et une deuxième phase qui devait sortir, dont notamment les jeunes garçons qui sont en train de combattre là-bas, est arrivée jusqu'à la 41e brigade, à la rive gauche. Mais quel est le traitement qu'on lui avait réservé? Le monsieur était obligé de rentrer dans la forêt parce que il avait subi un traitement comme si il avait commis un péché qu'aucun Congolais n'avait jamais commis. Moi, je pense que la solution actuellement, c'est une solution négociée telle que décidée à partir de la conférence de Goma. Parce qu'en ce moment ici, reconnaissez que ce sont des innocents qui sont en train de périr.
petit rectificatif, il s'agit du député national Michel Botoro au lieu de Michel Botoko. Bonsoir général Jean-Claude Tupois.
Bonsoir messieurs les journalistes.
Vous êtes le commandant de la 9e région militaire. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a eu dernièrement des affrontements alors que vous avez déjà décrété un cessez-le-feu?
Effectivement, messieurs les journalistes, je vous confirme qu'il y a eu des affrontements parce que le cessez-le-feu décrété a été violé par les miliciens qui se trouvent dans ce secteur.
Et alors, comment se présente la situation actuellement sur les terrains dans les territoires de Bafoussindé? Est-ce que les combats continuent entre vos troupes de la 9e région militaire et les Maïmaï du colonel Luc, du major Luc Yabili?
Pour le moment, il n'y a pas d'affrontement, mais la situation reste tendue. Parce que c'était une demande de la MONUC et le secteur D et l'implication des notables du territoire de Bafoussindé. Ils étaient venus me voir pour demander qu'il y ait un cessez-le-feu parce qu'ils étaient convaincus que le major Luc allait adhérer au processus de brassage pour intégrer l'armée. Ce qui a été fait, le 11 juin, on avait décrété une trêve, la cessation des hostilités. On avait même donné nos positions à la MONUC. À notre grande surprise, on était attaqué 6 jours après, c'est-à-dire le 17 juin, par une coalition des FDLR et ses miliciens du major Lique dans la localité de Longa. C'est ça la réalité. Et on pouvait bien éviter tout ça, mais je ne vois pas pourquoi ils agissent comme ça. Mais il y a une instrumentalisation de certains politiciens qui ont des avantages dans cette situation. Ils ne veulent pas qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Parce que, vous savez, ce secteur est situé dans le parc de la Maïko. Ce parc regorge beaucoup de minéraux et des animaux d'une grande diversité. Il y a le braconnage qui est pratiqué, le trafic d'ivoire et l'exploitation illégale des minéraux. Ce qui nous étonne, quand j'ai reçu cette délégation des notables de Bafoussindé, parmi les revendications qu'ils ont présentées, il y a des revendications qui sont d'ordre politico-économique.
C'est-à-dire,
ces types de revendications, on ne peut pas les canaliser au commandant région militaire.
Il s'agit de quelles revendications? Mon général, s'il vous plaît, quand vous parlez de revendications sociopolitiques, il s'agit en fait de quelles revendications?
Oui, ils ont dit, si vous regardez sur la carte, vous verrez qu'il y a une localité appelée Angoumou. Il y a des concessions minières qui ne sont pas exploitées officiellement. Mais selon les notables, pendant la Deuxième République, il y avait des revenus qui allaient au profit de la population locale. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ils soutiennent que leurs frères détiennent des armes, c'est pour que leurs revendications soient entendues. C'est ça la réalité.
Mais donc, général Jean-Claude Kipois, si je vous comprends bien, vous justifiez la reprise de ces affrontements par l'instrumentalisation de ce problème par certains notables qui trouvent leur profit dans l'exploitation minière. Pourquoi pas également dans le braconnage, il y a des pointes d'ivoire qui sont commercialisées, d'après vous.
Tout à fait, parce qu'il y a ce que moi j'appelle un désordre organisé. Maintenant, quand on veut rétablir l'ordre, ça perturbe les gens. Et surtout cette instrumentalisation. J'ai bien suivi l'intervention d'un honorable qui parle d'un testament qui a été réservé. Mais un problème militaire, comment est-ce que ça revient à un honorable qui n'est pas militaire de parler de tout ce qui s'est passé au centre de brassage.
Mais alors, pourquoi vous avez laissé passer laissé partir le major Luc, qui est aujourd'hui à la tête de ces Maïmaï alliés au FDLR rwandais, qui échange les points d'ivoire, les minerais contre armes avec ces FDLR, d'après les informations dont nous disposons? Le major Luc Yabili était en brassage à Kisangani. Apparemment, rien n'a été fait. Il semble-t-il qu'il n'était pas très bien traité, lui et ses hommes de troupes. Alors, ils sont retournés dans la brousse et aujourd'hui, ils provoquent d'autres exactions et pourquoi pas d'autres problèmes. Pourquoi les avoir laissés rentrer dans la brousse?
Monsieur le journaliste, je vous dis, ce sont des problèmes qui ont précédé mon avènement à la tête de la 9e région militaire. Quand je suis arrivé l'année passée à la tête de cette région, je n'avais pas trouvé le major Lick. Il s'était déjà retranché dans son fief de Balobe, là où il coalise maintenant avec des FDL, c'est-à-dire les militaires de la localité de Balobe. Ils sont en coalition avec les FDL parce que c'est à la limite avec la province du Nord Kivu.
Est-ce que ces FDLR, groupes armés, c'est-à-dire c'est un groupe armé composé de Hutus rwandais, est-ce qu'ils sont de façon permanente aujourd'hui dans la province orientale ou ils naviguent entre les deux provinces, c'est-à-dire entre le Nord Kivu et la province orientale? Parce qu'on connaît, tout le monde sait que les FDLR, les militants Hutus rwandais, se trouvent plutôt dans la province du Nord et du Sud Kivu et non dans la province orientale.
Oui, il se trouve dans la province du Nord Kivu. Si vous regardez la carte, c'est en amont de la rivière Lindi. C'est-à-dire, il y a cette localité Isangi, qui est de l'autre côté dans la province du Nord Kivu. Il suffit seulement de traverser. Ils font parfois des incursions. Parce qu'il y avait un problème dans un passé récent entre les Mai Mai et les Mai Mai du Major Nick et les FDLR. Maintenant, comme les intérêts communs sont menacés, là maintenant, ils font la coalition. C'est ça la réalité.
Général...
Et surtout qu'on avait effectué une mission conjointe avec la MONUC, c'était à la fin du mois de novembre l'année passée, au Pyenge. C'était prévu qu'on entame des négociations pour que les majors regagnent le processus de grattage. Mais malheureusement, il n'avait pas répondu présent à ces rendez-vous.
Affrontement entre FRDC et Mai Mai dans le territoire de Bafoussam en province orientale, qu'est-ce qui justifie ces affrontements et pourquoi les Mai Mai de Bafoussam refusent d'adhérer au processus de brassage? C'est le premier thème que nous traitons dans le dialogue entre Congolais de ce soir avec comme unique invité le général Jean-Claude Kifoua qui est commandant de la 9e région militaire. Général Jean-Claude Kifoua, certains élus locaux affirment que les FRDC cherchent plutôt en s'attaquant au Mai Mai du major Luc Yabili, en s'attaquant lui, au fait, les FRDC cherchent à s'emparer des mines de la région des Longa, où se trouve notamment le parc de Maïko. Et cette région est, d'après ses élus locaux, riche en or et en coltan.
Oui, monsieur le journaliste, vous savez, les missions qui sont assignées à l'armée, il y a la défense de l'intégrité de notre territoire national. Il y a la protection des personnes et de leurs biens. Et nous sommes une armée aussi qui est moderne, qui doit participer au développement, aux efforts de la reconstruction de notre pays. Maintenant, si vous parcourez notre constitution, vous verrez que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et l'armée est un instrument de l'État pour asseoir l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Il n'est pas permis à des individus de détenir des armes pour la protection de ces richesses qui appartiennent à l'État. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point.
Mais général, vous n'avez pas répondu à ma question. Certains élus locaux de Bafoussam estiment que si les FRDC s'attaquent au Mai Mai du major Luc Yabili, c'est tout simplement parce que les FRDC veulent s'emparer des mines où on retrouve notamment de l'or et du coltan.
La réalité, c'est quoi? Ce sont des zones qui n'ont jamais connu la présence de l'autorité de l'État. Depuis l'époque de la rébellion jusqu'à présent. Maintenant, les localités concernées font partie de la 9e région militaire. C'est compte tenu des menaces qui pèse surtout la présence de groupes armés étrangers à la limite et parfois qui font des incursions dans les parcs et qui font l'exploitation illégale des minéraux pour soutenir leur cause. C'est ça la préoccupation qui nous amène à déployer nos unités dans tous ces secteurs parce que c'est la 9e région militaire, c'est où la menace.
Mais...
Malheureusement, on était vité à un problème. Au moment où on procédait à un déploiement des unités, on a été attaqué par les éléments infligés.
Mais on déplore également les exactions commises par les FRDC dans leurs affrontements contre les miliciens Mai Mai du major Luc Yabili, à Bafoussam notamment. Comment l'expliquer?
Bon, Ce sont des allégations. Il faut aller chercher l'information à la source. Parce que celui qui vous parle, il n'est pas sur place. Mais la meilleure façon de connaître la vérité, c'est d'aller à la source. Les FARDC ne peuvent pas commettre des exactions. D'ailleurs, vous pouvez suivre, ce n'est pas la première fois qu'on intervient. On a fait des opérations dans le territoire de d'Opala avec une grande réussite. On l'a fait aussi dans le territoire de Ubundu. Et surtout qu'il y a eu l'implication des notables, des élus de ces deux territoires, des chefs coutumiers et de toute la population que d'ailleurs je félicite en passant.
Mais certains élus de ce territoire de Bafouassindé ne sont pas d'accord avec les opérations militaires des FARDC, surtout qu'elles interviennent en pleine période, elles sont intervenues en pleine période scolaire.
Effectivement, ce n'est pas notre option de choisir la guerre. Parce qu'on avait même décrété un cessez-le-feu suivi par la Monique, qui demande de ces groupes de major ligue, soi-disant, ils allaient adhérer au processus. Mais on était attaqués. Nous sommes les forces du gouvernement. On ne peut pas laisser que des anarchistes viennent occuper, c'est bafouer l'autorité de l'État.
La situation humanitaire de plus de 800 familles de déplacés de Kiengé est préoccupante. Bafouassindé est située à plus ou moins 262 km au nord-est de Kisangani. 90% de ces déplacés vivent dans des familles d'accueil et manquent de médicaments, de nourriture et autres produits de première nécessité. Une équipe humanitaire mixte composée de la MONUC, d'agence des Nations Unies et de Caritas au Congo a effectué ce week-end une mission d'évaluation sur place. Jacques Ajarouvoi Watoum, chargé des affaires humanitaires au sous-bureau OCHA à Kisangani, présente les besoins urgents de ces déplacés de Kiengé. Il est au micro de notre confrère Aliana Ali Panagama.
Les besoins prioritaires exprimés par les personnes déplacées se regroupent principalement dans trois secteurs, à savoir le secteur de la santé, le secteur de la sécurité alimentaire et ce que nous appelons les non-food items, ce sont les non-vivres. L'hôpital général de Bafouassindé, qui souhaiterait bien avoir un appui en médicaments essentiels, pour prendre en charge les malades qui arrivent. Il y a un certain nombre de cas qui ont été référés, des cas de victimes de violences sexuelles qui doivent être prises en charge médicalement. Sur ce point, le stock dont dispose actuellement l'hôpital général est assez petit, devrait être renforcé. Du côté alimentaire, ces populations qui se déplacent avaient déjà cultivé et semé notamment du riz et d'autres cultures et ont dû les abandonner. On va devoir discuter avec les acteurs de la sécurité alimentaire sur une alternative qui pourrait permettre de les assister assez rapidement.
Général Jean-Claude Kifouag venait de suivre la situation humanitaire de ces plus de 800 familles de déplacés d'Okiengé. Est-ce que ça ne pose quand même pas problème avec... Est-ce que ce ne sont pas vos opérations qui ont causé ce genre de déplacement?
Moi, je pense que c'est plutôt la réaction de ces miliciens qui ne veulent pas respecter l'autorité de l'État qui crée le désordre et la désolation. C'est-à-dire, il y a un micro-État dans le parc de la Maïko, ce qui n'est pas tolérable.
Et si la situation...
Nous regrettons et la porte reste toujours ouverte parce qu'on était attaqués. Vous pouvez vérifier cette information pendant qu'on observait une trêve.
Mais qu'est-ce que vous allez faire au niveau de l'armée nationale si ces miliciens refusent toujours d'aller au brassage?
Moi, je pense... Pour celui qui refuse d'aller au brassage, en tout cas, il ne peut pas défier l'État congolais. L'armée est là pour restaurer l'autorité de l'État. Il faut qu'il y ait une police là-bas. Il faut qu'il y ait des services de l'administration de l'État. C'est vide. On ne peut pas laisser les gens vivre comme dans la jungle.
Vous allez, c'est-à-dire que vous allez continuer les opérations militaires malgré la situation humanitaire assez préoccupante de ces 800 familles de déplacés d'Okiengé qui avaient convenu de le suivre dans cette interview, dans cette intervention que vous venez de suivre tantôt, qui avait déjà cultivé et qui sont maintenant dans des familles d'accueil et dans une situation pas très bien. Malgré cela, vous allez continuer les opérations militaires?
Nous sommes en contact avec la MONUC qui fait la médiation. On vient de stopper, encore une fois, parce qu'on était attaqué. On était provoqués pendant qu'on respectait la trêve. Et nous allons rester dans cette position afin de donner encore une chance à la paix. Il faut que les élus, les notables de ce territoire sensibilisent les frères de revenir au brassage. Donnons encore la chance à la paix. Pour le moment, on stoppe pas. Et il faut que les militaires n'attaquent plus les positions FRDC.
Donc la solution...
Parce que quand on est attaqué, on est obligé à réagir. Pour le moment, on a stoppé. Il n'y a pas une offensive qui est menée.
Donc si je comprends bien, la solution que vous proposez, c'est la solution négociée.
Oui, on propose toujours la négociation. C'est mieux. Parce qu'on était attaqué, c'est ça la situation. Mmh. Et on prend la Monique à témoin, parce que la Monique suivait de près cette situation, surtout qu'elle faisait la médiation.
Merci beaucoup, Général Jean-Claude Kifoua, pour avoir accepté cette invitation. Bonne soirée à Kisangani dans la province orientale.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Je vous en prie.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Depuis moins d'une semaine, le prix du carburant a été revu à travers le pays, révision à la hausse pour Kinshasa et le Bas-Congo, dont le litre d'essence augmente de 35 francs congolais, passant ainsi de 790 francs congolais à 825 francs congolais. Révision à la baisse, par contre, à l'est du pays, où le litre d'essence diminue de 25 francs congolais, passant de 870 à 845 francs congolais. Au Katanga, le litre d'essence passe de 950 francs à 945 francs congolais, soit une diminution de 5 francs congolais. Nous abordons ce deuxième thème de dialogue entre Congolais avec trois invités. Boni Mwawantadi, qui est secrétaire général au ministère de l'économie, Fidèle Babala, député national et membre du NLC, et le professeur Musenga Chimpangila, qui est professeur en sciences économiques à l'université de Kinshasa. Le prix du carburant à la pompe a été revu depuis le mercredi 18 juin dernier sur toute l'étendue de la République. À l'ouest, comme nous le disions, le prix augmente. Et tandis qu'à l'est, le prix diminue. Donc, nous allons écouter le papier qu'a rédigé notre confrère Georges Kamoujova. Il nous fait le point sur cette situation.
Le ministre de l'économie justifie la révision par la hausse du prix mondial de pétrole. L'autre raison évoquée est la baisse des stocks des produits pétroliers. Sur ce point, les importateurs estiment que l'État peut anticiper, c'est-à-dire voir ce qui reste en stock au pays et ce qui devrait arriver. De cette façon, il pourrait y avoir des augmentations anticipées sur une longue période, plutôt que des révisions à répétition, déclare le groupement des pétroliers du Congo. Selon l'économiste Lance Kamwanya, une légère augmentation du litre d'essence occasionne souvent une flambée des prix des produits de première nécessité. Et la baisse d'essence ne suit pas souvent la même logique. L'année dernière, la RDC a importé 730 000 mètres cubes de pétrole et les besoins sont en hausse selon le ministère des hydrocarbures. Certains économistes pensent qu'il faut limiter ces importations en raffinant le pétrole au pays. Difficile, car les 25 000 barils produits par jour sont totalement exportés. En plus, la seule raffinerie du pays est aux arrêts depuis 10 ans.
Monsieur le secrétaire général au ministère de l'économie, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Votre réaction d'abord par rapport à la révision à la hausse pour Kinshasa et le Bas-Congo et à la baisse, notamment pour l'est du pays. Qu'est-ce qui le justifie qu'à Kinshasa, le prix est augmenté, tandis qu'à l'est du pays, le prix ait été revu à la baisse?
Merci pour la question. Je crois que on l'a toujours dit. Il y a trois paramètres qui militent en faveur de la révision à la hausse ou à la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Il s'agit d'abord des prix moyens frontières,
c'est-à-dire
le prix auquel les importateurs achètent le carburant. Il s'agit aussi du taux d'échange et du volume. Quand l'un de ces paramètres varie à 5% à la hausse ou à la baisse, automatiquement on peut revoir la structure des prix à la pompe des prix des produits pétroliers. Dans le cas qui nous concerne, au niveau de l'Ouest, donc Kinshasa, le Bandundu, province de l'Équateur et Bas-Congo, les prix moyens frontières a connu une augmentation. Et tandis que à l'est et au sud, les prix moyens frontières est resté un peu plus stable, même a connu une légère baisse. C'est pourquoi vous voyez la conjugaison de ces facteurs nous donne un prix à la hausse à l'ouest, un prix revu à la baisse à l'est et au sud.
Mais c'est quand même une révision, c'est la deuxième révision en l'espace d'un mois et la cinquième depuis le début de l'année. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même assez perturbateur pour les ménages congolais?
Bon, la réalité est que lorsque l'un de ces paramètres varie, il faut nécessairement revoir les prix, à la hausse ou à la baisse. Mais maintenant, quant à savoir pourquoi on peut revoir sans attendre où il faut revoir les prix un peu plus longtemps, et je venais de suivre certaines déclarations, je suis d'accord avec certains d'entre eux, qui disent qu'on peut revoir une fois le prix et attendre peut-être deux ou trois semaines ou un mois avant de revoir ces prix. Mais vous savez, lorsque nous sommes en train d'étudier la structure des prix des produits pétroliers avant de fixer, il y a plusieurs scénarios. Et parmi les scénarios, on prend souvent un des scénarios qui se présente.
C'est-à-dire,
vous pouvez avoir un scénario minima, un scénario moyen et un scénario maxima. Et à ce moment-là, on fait une autre technique et on demande au pouvoir qui décide de décider. Mais qu'est-ce qui milite à ce qu'on puisse choisir le schéma minimum?
Rapidement, s'il vous plaît.
C'est le problème du pouvoir d'achat de la population. Vous savez, il est bien, on peut dire aujourd'hui, au lieu d'être à 885, qu'on soit à 870, 800 ou 900. Mais nous voyons aussi le pouvoir d'achat, parce que quand vous craignez que la révision peut entraîner la révision des autres produits,
notamment les moyens de transport, les
vivres. Et si vous revoyez, par exemple, vous revoyez le prix à 10%, les autres biens peuvent être réduits à 20, 30% ou même un peu plus. Et quand vous revoyez le prix, par exemple, des produits pétroliers à 5%, souvent, les prix de transport en commun sont contenus. Et c'est ce qui milite en faveur du choix du scénario le moins cher.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Vous êtes encore avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur Fidel Babala.
Bonsoir.
Vous êtes député national MLC. Vous représentez donc le peuple. Comment vous réagissez face à ces augmentations assez régulières de prix du carburant à travers le pays?
Merci pour la question. Je pense que ces augmentations traduisent l'incompétence du gouvernement à pouvoir faire de l'anticipation. D'abord, ensuite, pouvoir faire une rétrospective en ce qui concerne les éléments internes de la structure des prix. Il y a énormément d'incohérences. Dans le reportage que vous avez lu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que la saucière ne raffinait pas. Ne raffinait pas un litre, alors que nous avons une production.
Allez-y, allez-y.
Bien. Donc, je parlais de la saucière. Il est de notoriété publique que la saucière ne raffine pas un litre de produits pétroliers dans le pays ici. Mais pour quelle raison notre gouvernement alloue chaque mois 1 100 000 dollars à la saucière pour ne rien faire? Alors qu'il est connu aussi que la saucière, dont la tâche actuelle n'est pas de faire de la raffinerie, mais plutôt de faire de l'allègement et un stockage relais pour amener les produits vers Kinshasa, facture ses services. Ça veut dire qu'il y a une incohérence dans la définition même du rôle de la saucière, qui pourrait faire bénéficier à l'État ou aux consommateurs congolais de la contrepartie de ces 1 000 000 dollars dans la structure des prix, impactée par rapport à la quantité.
La saucière, c'est l'usine de raffinage du pétrole congolais à l'arrêt.
Qui porte très mal son nom, en fait, et qui ne raffine rien du tout. depuis plus de 10 ans.
Et vous pensez que le fait que cette usine de raffinage de pétrole ne fonctionne pas a une incidence sur le prix?
Absolument. Vous prenez le $1 million 100 qu'on alloue chaque mois à la saucière. Vous le divisez par les 52 000 mètres cubes que nous consommons dans ces pays, du moins la partie ouest de ces pays. Vous le divisez, vous avez l'impact. En plus de cela, il y a les charges CEP qui sont totalement sous-dimensionnées, qui n'ont pas été revues. Le CEP, qui est une société qui est chargée de services des entreprises pétrolières, perçoit pratiquement $3 200 000 par mois pour faire son travail, c'est-à-dire les transports, le stockage et les livraisons dans les stations services. Ces charges, voulais-je dire, sont surdimensionnées. Il faudra qu'on arrive à une définition à la carte de charges de CEP pour faire bénéficier d'un effet amortisseur, en fait, aux consommateurs congolais, ou, si c'est l'option de l'État, de pouvoir accroître sa perception des taxes. Voilà un certain nombre d'incohérences. Je prends l'aspect extérieur. Le secrétaire général tout à l'heure a parlé du prix moyen frontière. Est-ce que ces prix moyens frontières reflètent la réalité marchande? C'est vrai que les prix sur le marché international ont augmenté. Ça devrait avoir de l'incidence au niveau du prix rendu Kinshasa. Mais est-ce que ces prix sont transparents, des prix transparents? Je vous informe que ce sont des filiales, en ce qui concerne Fina Congo et Elf Oil RDC, c'est Total RDC qui fournit. On peut se poser des questions sur la transparence de ces prix-là.
Merci beaucoup.
Pour dire qu'en ce qui concerne Shell, c'est un con qui s'en occupe. Est-ce que ces prix sont transparents? Je dénonce un comportement en oligopole, en entente.
C'est-à-dire
en cartel. Ils prennent ces sociétés pétrolières qui sont dans notre pays, ils prennent le pays en otage. Et je suis vraiment atterré de voir que notre gouvernement ne fait pas une analyse rétrospective et prospective pour pouvoir faire bénéficier des meilleurs prix à nos populations.
Merci beaucoup, Monsieur Fidel Babala. Je rappelle que vous êtes député MLC, vous représentez le peuple, mais aussi surtout l'opposition à l'Assemblée nationale. Je retiens, d'après vous, qu'il y a un problème de financement des sociétés chargées, de la société chargée de raffiner le pétrole congolais, qui est à l'arrêt, qui consomme le budget lui alloué sans remplir vraiment son rôle d'amortissage de prix, de même que la CEP également, qui est chargée de stocker, de commercialiser, notamment le prix de produits pétroliers. Vous posez également le problème des prix moyens frontières et puis de certaines sociétés qui ne jouent pas à fond jeu. Nous avons également dans ce studio le professeur Musenga Chimpangila. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Kinshasa. Vous intervenez comme analyste économique dans cette émission. Comment vous réagissez? Comment vous analysez cette révision à la hausse des prix de carburant à l'ouest du pays et baisse à l'est du pays, notamment et au sud-est?
Personnellement, j'ai commencé à examiner l'origine. Hein. L'origine est l'étendue du problème de l'augmentation du prix. C'est un problème, disons, international, mondial. Et il a été prouvé que cette augmentation n'a absolument pas de rapport avec l'augmentation de coûts. Non, c'est
l'augmentation de coûts.
Le coût de production. Le coût de production sur le plan international ne reflète pas exactement les augmentations actuelles des prix. Est-ce que c'est un groupe de pays, un groupe d'entreprises qui essaie de faire le challenge à un monopole, à une hégémonie qui existe quelque part? J'ai l'impression comme cela. Alors, c'est plus politique que réel. Si vous regardez, vous écoutez le monde, ce sont les entreprises pétrolières qui sont en train de réaliser des bénéfices plantureux, scandaleux.
Vous voulez dire que c'est la raison de la spéculation au niveau du marché pétrolier mondial?
La spéculation pure et simple au niveau mondial qui a fait que les prix augmentent et restent à ce niveau jusqu'aujourd'hui.
Et professeur, mais nous produisons quand même au niveau de Moanda, la République démocratique du Congo produit 25 000 barils par jour. Est-ce que ces 25 000 barils par jour ne pourraient pas essayer de stopper cette révision à la hausse de prix de carburant?
Là, monsieur, je vous assure qu'il faut tomber de la lune pour accepter que la production nationale contribue pour quelque chose dans la consommation. D'ailleurs, vous savez qu'à un certain moment, ils ne pouvaient pas raffiner nos produits pétroliers sur place parce que, disait-il, les appareils n'étaient pas convenables, et ainsi de suite. L'honorable, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, leur présence ici, c'est une présence figurative, purement et simplement. Est-ce qu'ils ont déjà contribué à alléger nos misères, en quelque sorte, depuis que nous sommes là? Moi, je ne m'en rends pas compte.
Merci beaucoup, professeur. Nous vous gardons encore dans ce studio. Je m'étends de nouveau vers vous, monsieur le secrétaire général au ministère de l'économie, monsieur Bouni Mwawantadi. Est-ce que vous pouvez répondre au député national Fidel Babala qui met en doute le prix moyen frontière dont vous venez d'évoquer, et aussi le problème de financement, notamment de la société de raffinage du Congo, la société qui consomme le budget de l'État, mais ne joue pas son rôle d'essayer un peu de tempérer l'augmentation du prix de carburant ici en République démocratique du Congo?
Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je dois vous dire que je suis très à l'aise de voir que monsieur Babala, député national, et connaît ce qu'il est en train de dire. Et je peux aussi affirmer que le gouvernement n'a pas d'incohérence. Et c'est grâce à la politique gouvernementale qui a été installé depuis 2001 et qui est passé par le 1+4 et qu'on est en train de gérer aujourd'hui, qu'on essaye de bien gérer la politique des prix des produits pétroliers à la pompe.
Pourquoi je disais que... Mais augmenter les prix...
Excusez, tu vas donner... Vous m'avez donné la parole, je
vais vous
tutoyer. Monsieur l'honorable député est en train de parler de Pré-Saucisse et de Pré-Sept. Ces deux entreprises font de la prestation de services. Et ces services doivent être payés. Lesquels services sont l'entreposage et le transport et la distribution des produits pétroliers. Si l'honorable député trouve que c'est surdimensionné, comme il a dit. On n'a qu'à faire l'audit. Et là, je suis d'accord avec lui. Dans le cadre de maîtrise des frais, on peut faire l'audit. Et je dois même dire devant votre micro et devant lui que pendant le 1+4, l'honorable Babala a été membre de la commission de suivi des prix de produits pétroliers. Donc, il sait ce qu'il veut dire. Et je dois même vous dire devant lui qu'il a conduit une mission à travers les pays d'Afrique centrale pour pouvoir essayer de maîtriser les structures dans d'autres pays et venir les appliquer ici.
Vous voulez dire par là, M. le secrétaire général, que le gouvernement actuel sait mieux que le 1+4?
Non, je ne le dis pas, mais quand j'entends dire qu'il y a incohérence, c'est pourquoi j'ai voulu vous donner cette précision.
Merci, on laisse aussi votre
Oui, quant au prix moyen frontière, je suis d'accord avec lui qu'on peut chercher comment maîtriser, et je pense que dernièrement on était même à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée avait recommandé pour qu'on puisse voir comment on peut maîtriser les prix. Parce qu'on a soulevé un problème beaucoup plus important. On met en cause le gouvernement actuel, et je pense que Il faut qu'on dise la vérité à la population.
Merci beaucoup.
Non, je voudrais vous dire...
Terminez, s'il vous plaît.
Oui. Quant aux prix moyens frontières, c'est l'exemple que je vais donner. Il n'y a que cette fois-ci que vous allez voir que le prix moyen frontière à l'ouest est plus important que le prix moyen frontière à l'est. Donc, pendant tout ce temps, l'honorable député le sait que les indépendants qui sont à l'est et au sud ont toujours eu un prix moyen frontière beaucoup plus élevé.
Merci beaucoup. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Honorable Fidèle Babala, vous êtes député national, membre de l'opposition du MLC. Vous pouvez répondre au secrétaire général au ministère de l'économie.
Merci. Encore une fois, je remarque que...
Il semble que le 1 plus 4 a fait...
Je ne veux pas entrer dans ce débat.
Non, bon,
je pense même que lui-même...
Il n'en veut pas.
Il ne veut pas de ce débat. Je crois qu'on doit rester technique pour pouvoir faire bénéficier à notre population de notre savoir.
En deux minutes, s'il vous plaît.
Rapidement, sur la saucière, je pense que la saucière est incompatible avec notre but. Parce que construit avant la production du premier baril de pétrole ici. Donc, ce n'est pas adapté. Deuxièmement, en ce qui concerne le CEP, je pense que le secrétaire général a dit la moitié de la vérité. CEP Congo ne fait pas du transport, du stockage dans tous les territoires de ces pays. À l'est, c'est une agence en douane. Dans tout l'Est. Hein,
qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il commercialise.
Tout simplement, CEP Congo ne joue pas son rôle sur toute l'étendue du territoire national.
Mais joue le rôle d'une
agence en douane. Et il est totalement incohérent de lui allouer des frais comme une société de services. Quand vous regardez la structure des prix, ça couvre l'ensemble du territoire national. C'est une incohérence. Deuxième incohérence, en ce qui concerne les prix moyens frontières, monsieur le secrétaire général le sait très bien. Dans notre pays, nous cotons la cotation en fait de produits que nous consommons ici qui sont livrés par des importateurs. Nous les cotons Nord-Ouest CIF, donc au coût assurance et fret Nord-Ouest Europe. Aucun produit, aucun litre ne vient de l'Europe de l'Est, de l'Ouest. Ça vient de la côte africaine.
Donc vous voulez dire qu'il y a un problème dans la détermination
des prix. La différence entre la cotation Nord-Ouest Europe et la cotation côte méditerranée, c'est $20 déjà l'achat. Ça peut être impacté au niveau du prix à la pompe. C'est là où je dis que ces gouvernements brillent par une incompétence, tellement ils sont scotchés dans la gestion du quotidien, ils sont tellement médiocres.
Merci. Bon, on va aussi laisser le professeur Moussenga Chimpangila, vous êtes professeur en sciences économiques. Est-ce qu'il y a un problème dans la fixation de la structure de prix de carburant, comme vient de le dire le député national Fidèle Babala?
Le problème, si vous voyez la structure du prix, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Mais ne nous limitons pas à nous-mêmes. Je voudrais partager les deux. Voyez, aux États-Unis, par exemple, le gallon coûte 4 dollars. Et ici, le litre coûte déjà 800. Et si vous multipliez par 4...
C'est à peu près 1 dollar et demi.
Ici. 1 dollar et demi. Et si vous multipliez par 4, vous êtes à 6.
Est-ce que nous avons le prix du pétrole, du carburant le moins cher au monde, comme on l'entend dire souvent ici?
Moi, je ne le dirais pas actuellement, parce que le gallon, c'est combien de litres? C'est 4, à peu près. Et prenez le prix du litre, multiplié par 4, et divisé par le dollar, vous êtes au-delà de 6 dollars. Donc, nous avons un carburant actuellement qui coûte plus cher. Ce que nous pouvons faire...
Oui, comme solution, rapidement.
Le prix augmente partout. La tendance est générale. Le gouvernement, étant donné que la saucisse qui devait normalement produire, ne produit pas. Le CEP appartient aux entreprises pétrolières, pratiquement. Le CEP reçoit les produits des entreprises pétrolières et les stocke. Donc, en quelque sorte, ce que nous pouvons faire, voyons ce qui se passe dans les autres pays. Dans les autres pays, il y en a qui diminuent la consommation de produits pétroliers, qui utilisent moins de véhicules, ainsi de suite. Et dans le cadre de la responsabilité...
Il faut diminuer notre consommation, c'est ça.
Oui, diminuer. De deux côtés, hein, dans le cadre de la responsabilité sociale, l'État peut revenir, peut intervenir pour un peu calmer les jeux, mais
subventionner le prix.
En quelque sorte, mais pas pour toujours, parce que la tendance maintenant,
oui, mais terminez votre phrase.
Les prix pétroliers vont augmenter pour toujours. Ils ne seront plus
maintenant. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à nos invités. Merci également à nos auditeurs. Au revoir et à demain.